sur une musique rythmée, des cris et des applaudissements. Nous sommes sur la place Venceslas, noir de monde, le 1er mai 1955. Les images d'archives montrent des sportifs qui marchent en rythme, des travailleurs qui avancent le poing levé, des enfants qui chantent, sous le regard des officiels de la tribune. Comme tous les ans, à Prague, Brno, Bratislava et d'autres villes de la République tchécoslovaque, des milliers de personnes participent aux cérémonies du 1er mai. C'est à ces cérémonies du 1er mai que s'est intéressé Roman Krakowski, doctorant en histoire à l'Université Paris 1 et boursier du CEFRES à Prague. En 2004, il a publié un livre aux éditions L'Harmattan, Le rituel du 1er mai en Tchécoslovaquie, de 1948 à 1989. Un rituel selon lui, parce que le Parti communiste tchécoslovaque a, entre 1948 et 1989, édifié cette cérémonie du 1er mai, la codifiant et essayant de lui donner un sens précis, celui de transmettre certaines valeurs socialistes. À partir de 1945, le Parti communiste tchécoslovaque récupère le 1er mai, pour célébrer la figure du travailleur et l'unité nationale, mettre en avant la classe ouvrière et fêter les résultats économiques des plans biennaux. Le 1er mai devient un véritable rituel au fil des ans. La création de commissions chargées des travaux de préparation, les commissions de mai, illustre la mainmise du Parti communiste tchécoslovaque sur le 1er mai. Par la création d'une organisation centralisée, le pouvoir veut donner un caractère cohérent à chaque manifestation et vérifier sa conformité à la nouvelle tradition. Écoutons Roman Krakowski expliquer comment a eu lieu cette récupération.
En fait, ce qui m'a intéressé sur ce sujet, c'est le passage d'une fête qui était une fête partisane pour la défense des droits de travailleurs, les droits sociaux, vers quelque chose d'autre, après la prise du pouvoir par le Parti communiste en Tchécoslovaquie, vers un rituel de représentation qui est une modélisation de la société socialiste idéalisée.
Parce que vous expliquez que le 1er mai à l'origine, tel que défini par l'Internationale socialiste à la fin du 19e siècle, est une fête de lutte sociale qui est récupérée par le pouvoir communiste pour en faire une certaine glorification du travailleur et une glorification en même temps de l'unité nationale.
Oui, et pas seulement une tradition ouvrière, hein, c'est une fête qui a été certes créée par l'Internationale socialiste à la fin du 19e siècle, mais qui a été utilisée par d'autres forces politiques, par le parti nazi en Allemagne. C'était une journée fériée en Allemagne nazie. Donc en 1945 ou 48 en Tchécoslovaquie, le 1er mai a derrière lui une tradition longue que le régime doit gérer.
Et comment se passe cette récupération, en quelque sorte, par le régime communiste? Par exemple, vous décrivez des organismes qui sont créés pour encadrer et petit à petit s'approprier les différentes manifestations?
Donc cette récupération du 1er mai passe par plusieurs moyens. D'abord par l'aménagement de l'espace de la manifestation, les itinéraires par lesquels on passe, où on s'arrête, où on s'arrête pas, les endroits qu'on évite, et également par la recomposition du cortège qui devient quelque chose de beaucoup plus structuré et qui doit se lire presque comme un livre ouvert.
Lire le cortège comme un livre ouvert, tel est donc le but du pouvoir communiste. Dans ce livre, les spectateurs doivent pouvoir retrouver des valeurs simples, comme l'édification du socialisme et la célébration du travail. Le 1er mai est ainsi un vecteur de diffusion des valeurs du régime, qui forme un tout logique et cohérent. D'où des règles de composition du défilé très précises, qui concernent même l'ordre des drapeaux dans le cortège. En 1955, par exemple, on observe en tête de défilé les drapeaux des pères fondateurs, Marx, Engels, Lénine et Staline, suivis par Gottwald, le président de la République. Cette tête de défilé est une représentation symbolique du pouvoir, qui évolue au fil des orientations idéologiques, comme après la disparition de Staline et le début de la déstalinisation en 1956. Comme nous l'explique Roman Krakowski, la composition du défilé, ou même les lieux traversés, ne sont pas anodins, mais soigneusement choisis.
Ce qui est intéressant, c'est que, comme j'ai dit, le 1er mai est une fête partisane. Donc, je prends l'exemple de Prague, où les manifestations du 1er mai, dans l'entre-deux-guerres, se déroulaient sur la place de la République ou sur l'île aux tireurs. Et après 1948, le défilé s'installe sur la place Venceslas, qui est une place liée à l'histoire nationale. Et donc, pour moi, il s'agit très clairement d'une volonté du régime de transformer cette fête partisane en une fête nationale.
D'autant plus que la place Venceslas permet de donner un caractère massif par sa longueur et par sa taille, non ? Quand on voit la taille du défilé, du bas de la place.
Exactement. En fait, la tribune du 1er mai est installée sur l'endroit qui s'appelle Moustek, donc en bas de la place, d'où le défilé s'offre à la vue comme un livre ouvert. La place est fermée, donc on a un effet de vivier naturel que le régime met au profit de la fête.
Vous évoquiez aussi la hiérarchie à l'intérieur du défilé. Par exemple, vous décrivez que les ouvriers sont placés plus en avant que les agriculteurs pour exprimer le projet vers lequel tend la société socialiste, en insistant plus sur l'industrie que sur l'agriculture.
En fait, par une sorte de tâtonnement au début des années 50, le défilé progressivement arrive vers la forme qu'on lui a connue pendant les 30-40 prochaines années, c'est-à-dire quelque chose de très structuré avec des hiérarchies des secteurs, donc l'industrie, l'agriculture, et ce qu'on appelait à l'époque le secteur non productif, donc aujourd'hui ça serait les services, et une hiérarchie également de performance, où en tête de cortège et en tête de chaque délégation, on mettait les meilleurs éléments, ceux qui ont remporté la compétition socialiste de l'année.
Et donc le défilé permet un peu de pousser ces différents groupes, de mettre ces différents groupes en compétition, par exemple au niveau des performances, puisque s'ils réussissent bien, ils vont espérer être en tête de défilé l'année suivante.
En tout cas, c'est ce que le régime espère, un des moyens de mobilisation des masses et aussi l'organisation de la compétition socialiste qui joue très clairement sur la volonté de l'individu de mettre en valeur son travail, sa réussite professionnelle. Et sur ce plan, le régime très clairement réussit.
Le défilé est ainsi une mise en scène, censée représenter la société socialiste idéale. La hiérarchie à l'intérieur du défilé, pour lesquelles des consignes de plus en plus strictes sont données, exprime la hiérarchie idéale de la société. Le 1er mai est censé ainsi décrire la société utopique et égalitaire vers laquelle tend la Tchécoslovaquie. Si le 1er mai est une mise en scène, qu'en est-il des spectateurs ? Comment ceux qui participent aux cérémonies les perçoivent-ils ? De 1948 à 1989, la participation diminue, mais reste massive. Comment l'expliquer ? Il y a bien sûr un conditionnement des populations mobilisées par l'intermédiaire d'organismes et de campagnes, et par des jeux sur l'émotion. Mais la participation semble paradoxale. Défiler, est-ce adhérer au régime, à ses valeurs ? C'est la question que se pose aujourd'hui l'historien, qui cherche à comprendre le rapport des populations au régime communiste.
Quand on réfléchit sur la façon dont les populations ont perçu cet événement, on part des chiffres et tout au long des années 50 et 60, on atteint des chiffres de participation sur le plan national à peu près de 40-42%, ce qui est un plafond au-delà duquel le régime n'arrivera jamais à aller. Mais en soi, c'est déjà un chiffre très important et il faut l'interpréter. Pour simplifier, je dirais que dans les premières années du régime, il faut accoutumer les populations à un nouveau rituel qui est quelque chose d'étranger que les populations doivent d'abord s'approprier. Cette appropriation se passe dans la première moitié des années 50 et pour moi, vers 1952, se situe un basculement où on passe de la résistance vers une sorte d'appropriation de l'événement. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette appropriation se passe par le biais complètement apolitique. Le 1er mai devient une réussite parce que c'est une occasion de se rencontrer dans un cadre moins formel, en dehors des lieux du travail. C'est une occasion de voir des amis, des proches, des membres de la famille. Parfois, on remonte des petites villes vers la capitale régionale ou nationale, pourquoi pas. Donc c'est une occasion de créer des liens ou de renforcer des liens de solidarité et d'amitié. Et c'est à travers ce côté social ou côté sociabilité que le 1er mai, que les populations s'approprient l'événement.
C'est-à-dire que ce n'est pas exactement conforme aux souhaits du régime socialiste qui voulait utiliser avant tout le 1er mai pour diffuser ses propres valeurs.
Mais c'est pas incompatible. Ce qui est important pour le régime, c'est que les populations viennent participer. Après, comment on interprète cette participation, ça c'est autre chose. Et c'est ça qui représente la difficulté d'interprétation du 1er mai, c'est de faire la part entre les volontés du régime et les aspirations des populations qui, à un moment donné, se rejoignent, mais pas forcément pour la même raison.
Cet accent sur le 1er mai permet de nous intéresser plus généralement à ce que les historiens appellent les politiques symboliques. Comme nous l'explique Roman Krakowski, elles sont mises en œuvre par un régime politique dans le but de créer un lien social entre les populations.
Comment expliquer les politiques symboliques ? Si on part de l'étymologie du mot « symbole », en Grèce ancienne, c'était un morceau de poterie qui était cassé en deux, qu'on essayait de remettre ensemble pour restaurer le lien. Par exemple, on échangeait les morceaux de poterie entre ambassades des cités grecques pour reconnaître son interlocuteur. Et c'est exactement ce qui est l'objet des politiques symboliques, de restaurer le lien cassé à travers les symboles. Donc on peut aller du timbre-poste jusqu'à l'hymne. L'exemple du 1er mai permet justement d'analyser cette volonté du régime de créer un lien social entre les populations, de le maintenir et éventuellement le restaurer quand il commence à s'effriter.
Et de s'attirer le soutien de la population, ce qui manque d'une certaine manière dans un régime autoritaire, puisque le gouvernement n'est pas élu, les représentants ne sont pas directement choisis.
Comment dire ? Dans les régimes communistes, nous sommes dans des régimes qui ne peuvent pas fabriquer de l'adhésion à travers le mode plébiscitaire. Les élections sont un simulacre et donc le rapport aux politiques doit se fabriquer par d'autres moyens. Et dans les régimes socialistes, il se fait également par les rituels. Et sur ce plan-là, le rituel du 1er mai est un très bon exemple parce que il met en scène, à travers l'esprit de don et de contre-don, ce lien social qui doit se créer entre les élites installées sur la tribune et les populations qui défilent dans le cortège.